franceinter.fr.
On s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le racisme. Avec cette question, est-ce que des groupes de réflexion non mixtes, c'est-à-dire semblants, a priori, peuvent être une solution, comme aux États-Unis par exemple, ou alors comme en France avec les féministes dans les années 70, hein, une solution pour lutter contre le racisme? C'est la question qu'on se pose, franceinter.fr, et sur Twitter, hashtag le débat de midi, et le retour de l'info, ce sera à 13h. Il s'appelle le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, les indigènes de la République ou encore le collectif contre l'islamophobie en France. Tous font état que la lutte contre le racisme s'est beaucoup jouée sur le plan moral, assez peu sur le plan politique. Pour lutter contre le racisme, certains proposent aujourd'hui de se retrouver dans des groupes non mixtes où celles ou seules celles et ceux victimes de racisme prennent la parole, c'est-à-dire donc a priori des groupes semblants. Ça a été le cas par exemple à Paris 8 où des tables rondes autour de la loi travail se sont déroulées sans mixité. Autre exemple, avec un camp d'été décolonial qui commence dans quelques jours. Aux États-Unis, cette forme d'activisme commence dans les années 60 avec le mouvement noir pour les droits civiques. En France, dans les années 70, les féministes n'ont pas fait autre chose pour faire avancer leur cause. La non-mixité raciale, outil d'émancipation ou au contraire signe d'un repli communautaire, la lutte contre le racisme doit-elle se faire sans les Blancs? C'est notre question aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Avec 4 invités pour débattre de cette question, 5 invités même, puisque au téléphone, nous sommes au téléphone avec Christine Delphi, sociologue, bonjour.
Bonjour.
Ça fait très longtemps que vous travaillez sur cette question, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce débat de midi. Johannes Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du CRAN, hein, donc je le disais, le Conseil représentatif des associations noires de France, en charge des affaires juridiques. Laurent Bouvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue. Julien Talpin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques et nous attendons le militant Almami Kanouté, qui devrait normalement être parmi nous. Je crois qu'il est dans les couloirs de la maison de la radio, il arrive d'ici peu. Et je voudrais également remercier Alexandre Gilardi et Redouane Tella qui m'aident à préparer toutes ces émissions et qui ont eu du mal, beaucoup de mal, à trouver des intervenants pour venir débattre aujourd'hui. Un grand merci à eux, donc Alexandre Gilardi et Redouane Tella. Mais avant d'entamer ce débat, et comme tous les lundis, donc c'est avec le journal Libération que nous ouvrons l'émission, et c'est avec vous Lilian Alemania, bonjour.
Bonjour.
Et vous rentrez de Frangy-en-Bresse.
Oui, j'étais à Frangy-en-Bresse pour la fête populaire de Frangy-en-Bresse que Arnaud Montebourg n'appelle plus Fête de la Rose, et pour la déclaration de candidature d'Arnaud Montebourg, officielle, claire, pour la présidentielle de 2017.
Et quand vous dites déclaration officielle, pour le coup, il y a mis les formes.
Oui, il y a mis beaucoup de formes. Il a mis une veste, ce qui n'était pas le cas ces dernières années à Frangy-en-Bresse, où il était en bras de chemise, chemise blanche. Le chapiteau, ce n'était pas une estrade juste en bois, il y avait un chapiteau en dur, avec derrière lui le drapeau tricolore et le drapeau européen. Donc très présidentiel, y compris sur la forme, le ton de sa voix, moi j'ai trouvé. On n'est plus avec un Arnaud Montebourg très, très virevoltant comme il peut l'être. On a fait une minute de silence et non pas le banc bourguignon qui était trop, jugé trop festif par les organisateurs cette année.
Parce que ça passait mal à la télévision quand vous dites jugé trop festif?
Oui, c'est ce que disaient certains organisateurs. Ils disaient que c'était quand au moment où la France est touchée par le terrorisme, où on va se lancer dans la présidentielle, où le moment est grave, où il y avait une adresse à François Hollande assez, assez dure aussi de la part d'Arnaud Montebourg, c'est-à-dire, il le dit depuis Frangy, il demande au chef de l'État de renoncer à se présenter à la présidentielle et donc à la primaire, puisque une primaire sera organisée en janvier par le Parti Socialiste et ses alliés.
Alors, il y a eu donc l'annonce hier d'Arnaud Montebourg, celle ce week-end également de la députée.
Députée de Paris, oui.
Députée de Paris, Cécile Duflot, Benoît Hamon précédemment. On peut dire que la gauche part en ordre dispersé pour cette bataille.
C'est un peu le principe de la primaire. Il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que le PS fasse une primaire, donc donne un bon de sortie à certains de ses leaders comme Benoît Hamon, comme Marie-Noëlle Lienemann, des gens qui veulent contester la légitimité de François Hollande à l'intérieur. Il y a la question d'Arnaud Montebourg, est-ce qu'il passera par la primaire ou est-ce qu'il ne passera, ou est-ce qu'il ira directement. Il dit qu'il passera par la primaire si les conditions sont loyales. Et ce qu'on a compris hier, c'est si François Hollande y va, lui n'ira pas dans la primaire. Il a dit hier qu'il ne soutiendra pas quoi qu'il arrive François Hollande. Donc il n'y a aucune raison qu'il aille se confronter à François Hollande dans une primaire, étant donné que la règle d'une primaire, c'est de soutenir le vainqueur si on l'a perdu. Il a dit hier qu'il ne soutiendra pas, quoi qu'il arrive, François Hollande. Donc il laisse entendre que si François Hollande va dans la primaire, lui, il ira directement à la présidentielle. Après, la question est, est-ce qu'il aura les moyens financiers et humains pour aller chercher les signatures, de se présenter. Et Cécile Duflot, elle a fait le choix de passer par la primaire de son parti, puisque les écologistes considèrent, eux, que s'ils ne présentent pas de candidature à la présidentielle, quoi qu'il arrive, il y aura une candidature écologiste, et dans ce cas-là, ils perdent toute crédibilité et toute leur place sur l'échiquier politique.
Si on ajoute la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est déjà plus ou moins déclaré, ça veut dire beaucoup de monde à gauche, avec l'ombre d'un certain 21 avril derrière.
C'était un peu ce que nous avions proposé à Libération. On avait laissé nos pages à un collectif qui s'était créé pour qu'il y ait une primaire de toute la gauche, François Hollande compris et Jean-Luc Mélenchon compris. Jean-Luc Mélenchon, dès le début, avait dit qu'il ne voulait pas, ce n'est pas dans son ADN politique de passer par la primaire. Mais oui, il y a ce risque-là d'une multiplication des candidatures. Alors après, est-ce que les déclarations de candidature feront des candidatures à la fin? Ce n'est pas sûr. Il y a la question des signatures.
500 signatures.
500 hein, signatures. Les règles ont été... sont plus difficiles à obtenir puisque les maires devront dire et devront publier, sera publié à qui ils ont donné les signatures. Donc ce sera peut-être plus difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la candidature, je pense, de Jean-Luc Mélenchon, il y aura la candidature de François Hollande s'il se présente et s'il remporte cette primaire. La candidature des écologistes, ils vont aussi avoir du mal étant donné qu'ils ont moins d'élus, moins de conseillers régionaux, moins de maires, moins de conseillers départementaux pour obtenir une candidature. C'était tout le sens aussi d'un appel de Cécile Duflot il y a quelques mois via une plateforme internet pour interpeller les maires, certains maires, à lui donner les signatures.
Et l'annulation de l'université d'été du PS qui devait se tenir cette année à Nantes, mais pas à La Rochelle, a-t-elle permis aussi finalement cet éclatement, cet éparpillement aujourd'hui du PS?
Elle a donné un bond de sortie à beaucoup de courants. D'habitude, les courants du Parti Socialiste se retrouvent à La Rochelle et font leur réunion à La Rochelle. Donc, dans La Rochelle, il y a plusieurs petits La Rochelle. Là, ils seront à Paris et tous les courants vont se retrouver à droite, à gauche. Il y aura même un meeting de rentrée lundi prochain avec Manuel Valls, avec Jean-Christophe Cambadélis, de soutien à la politique du gouvernement et sous la bannière de la République, sur le thème de la République. Donc ce sera on a compté, je crois, 14 rassemblements à gauche, que ce soit de l'université du NPA à ce meeting de rassemblement des pro-Hollande dans la banlieue de Toulouse. Donc ça fait beaucoup, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans Libération, c'est que la gauche se présente telle qu'elle est, c'est-à-dire complètement divisée.
La gauche s'éclate, pour reprendre le titre en une de Libération. Eh bien, merci Lilian Alemania d'être venu nous parler aujourd'hui. Donc, la gauche s'éclate, à retrouver en une de Libération de ce lundi 22 août. Les groupes de réflexion non mixtes ne réunir que celles et ceux qui sont victimes de racisme, autrement dit, des débats semblants. Est-ce que la lutte contre le racisme passe par la non-mixité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Une question qu'on se pose aussi avec vous, bien sûr. Hashtag le débat de midi pour Twitter et franceinter.fr. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, il est midi 14 et le débat commence juste après Louise Attaque.
Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. On est tout essoufflé, on se fait tous un peu plus.
petit peu peur. On n'y voit plus rien, on ne voit que la fin. Et oui, tout disparu, ce petit air de rien. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On a tout effacé, ne reste que les erreurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. Chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre.
Gaëtan Roussel, Louise Attaque, chaque jour reste le nôtre. C'est le titre de cette chanson.
France Inter, le débat de midi.
La lutte contre le racisme passe-t-elle par la non-mixité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Johannes Louis, vice-président du CRAN, donc le conseil représentatif des associations noires de France, Laurent Bouvet, qui est politologue, Julien Talpin, qui est sociologue, Almami Kanouté, qui nous a enfin rejoint. Bonjour, bonjour. Almami Kanouté, vous êtes militant politique. Et puis au téléphone, nous sommes aussi avec Christine Delphi. Dans quelques jours s'ouvre un camp d'été décolonial où ne sont invités à participer que des hommes ou des femmes victimes de racisme. Un petit camp, hein, sans 80 personnes. Il y a quelques semaines à Paris 8, une semaine entière de table ronde, là aussi non mixte, dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail. Julien Talpin, est-ce qu'on est dans un mouvement de fond ?
Je pense qu'il y a une nouvelle génération antiraciste qui est en train de naître, une forme un peu de nouveau mouvement des droits civiques qui émerge et qui place comme question centrale, au fond, que ce sont les premiers concernés par les questions de racisme qui doivent prendre la parole et s'organiser. Je pense que c'est ça qui structure ce nouveau mouvement, avec un certain nombre d'organisations qui ont émergé, que vous avez cité en introduction, et qui se distinguent quand même des mouvements antiracistes plus traditionnels, qui avaient une sociologie différente, qui étaient davantage des gens issus de classe moyenne, davantage aussi de blancs, il faut le dire. Et donc, c'est un peu en réaction à ces mouvements-là qui ne semblaient pas représenter, en tout cas, un certain nombre de victimes de racisme, que les gens se sont organisés. Et c'est beaucoup aussi de gens qui sont issus des quartiers populaires qui, à un moment, ont voulu prendre la parole, s'organiser politiquement avec l'idée que c'est pas véritablement la non-mixité qui est la solution au racisme, c'est l'organisation collective, c'est la lutte, c'est la mobilisation, et que au fond toutes les avancées sociales dans l'histoire, et il suffit de regarder l'histoire du mouvement ouvrier, se sont faites par l'organisation collective et le combat, et c'est ça que ce flambeau-là que reprennent ces organisations depuis une dizaine d'années, dont la naissance date plus ou moins de 2004-2005 et qui sont montées en puissance progressivement.
Almami Kanouté, vous avez assisté vous-même à ce type de réunion non-mixte. Alors qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce qui se dit là, qui ne se dirait pas si la réunion avait été mixte?
Je pense qu'il faut pas s'affoler et voir là quelque chose de forcément négatif. À partir du moment où effectivement une partie de la population française se sentant discriminée, méprisée et injuriée, régulièrement à travers certains médias et notamment véhiculés par certains propos tenus par nos responsables politiques, il faut même pas être surpris de constater que des groupes de personnes décident de se réunir et de discuter, non pas pour évoquer des non-dits publiquement, mais pour évoquer ces questions essentielles entre eux. Et je pense que il est primordial, l'exemple des ouvriers a été cité, et je pense qu'avant que les ouvriers ne s'ouvrent ou n'ouvrent leurs portes à d'autres organisations, ont dû discuter entre eux avant de... Et effectivement, dans ce sens-là, pour moi, je ne vois rien de scandaleux ou de grave.
À l'Assemblée nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui avait été interpellé par le député Les Républicains Bernard Debré, après la réunion à Paris 8, hein, de ces réunions non mixtes hein, autour de la mobilisation contre la loi travail, avait déclaré « Ces initiatives confortent une vision racisée et raciste de la société qui n'est pas la nôtre. Ces initiatives sont inacceptables parce qu'au bout de ce chemin-là, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. » Laurent Bouvet.
Oui, bah, disons que ça, ce genre de réunion et l'idée qu'il y a derrière, justement, qui vient d'être évoquée, que seuls ceux qui sont concernés par les discriminations, par la domination, on pourrait dire, au-delà des discriminations, sont à même de les comprendre et surtout de lutter contre. Alors il faut essayer de bien voir les différents questions que ça soulève, parce que ça soulève des questions de plusieurs ordres. La première question, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, c'est la question des principes que ça soulève. Vous avez cité Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu d'autres réactions. Il y a un problème par rapport au principe d'universalité et de non-existence des races, pour dire les choses concrètement. On pourra en discuter par rapport au féminisme, puisque ça vient du féminisme à l'origine. Hein. Dans les années 70, il y avait une partie du mouvement féministe américain, en France aussi, une partie du MLF, qui organisait ce genre de séminaire, où les garçons, par exemple, n'étaient plus admis au-delà de 10 ans. Hein, ils n'avaient plus le droit de venir, les petits garçons jusqu'à 10 ans pouvaient venir, puis après, ils ne pouvaient plus assister. Donc, ça pose des questions différentes pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de réduction homme-femme, il y a une différenciation biologique, il y a deux sexes. Donc, pour les races, c'est différent, puisqu'il n'y a pas de race. En revanche, il y a des discriminations raciales, et ce n'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra. La deuxième chose que ça pose, c'est l'efficacité. Est-ce que c'est plus efficacité de se réunir entre soi, discriminer, que d'ouvrir et d'avoir des liens avec d'autres parties, disons, de la société, du mouvement politique, des associations, enfin, etc., etc. Et la troisième question que ça pose, c'est la question politique fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période neutre politiquement. Je pense notamment à la mobilisation très forte de l'autre côté, si on veut, de l'échiquier politique à l'extrême droite, dans les populismes, et du côté du retour d'une très forte revendication identitaire blanche, occidentale, voire chrétienne contre l'islam, on le voit. Hein. Et évidemment, là, on a une dissociation où chacun revendique une identité propre qui peut être raciale, qui peut être religieuse, qui peut être spécifique, due à son ethno-racial, comme on dit aux États-Unis, hein, c'est un terme qu'on utilise peu en France, mais on l'utilise aux États-Unis. Et donc là, on a effectivement des lignes qui se dessinent, qui ne sont pas tout à fait, sur lesquels on ne peut pas être très optimiste.
Alors, il y a ce camp d'été des coloniales organisé par Fania Noël et Siam Asbak, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure au début de l'émission. Nous les avons invitées, d'ailleurs, elles ont refusé de venir aujourd'hui débattre avec nous, mais elles ont donné des interviews dans la presse, notamment une très très longue qu'on peut trouver sur Internet, sur un site Internet, où elles expliquent que la parole blanche est souvent survalorisée, surinterprétée, surlégitimée, comparé aux paroles et aux pensées non blanches. Christine Delphi, vous êtes sociologue et ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions de non-mixité.
Oui, ça fait longtemps que je travaille. C'est pas tellement que je travaille, c'est que j'ai été amenée par les nécessités de la lutte et aussi, à penser cette question. J'étais aux États-Unis dans les années 60, au début des années 60. Et en fait, cette non-mixité, elle vient du mouvement du droit civique. Parce que moi, j'étais là.
Donc un mouvement pour la représentation des Noirs, hein, aux États-Unis.
Un mouvement contre l'oppression des Noirs, en particulier dans les États du Sud, qui avaient gardé des lois discriminantes. Bon. Ce qui m'a frappé, c'est que il y avait des mouvements comme SNCC et CORE, qui étaient vraiment les mouvements d'avant-garde dans la lutte des droits civiques, qui étaient au départ mixtes, c'est-à-dire avec des noirs et des blancs, et qui, très vite, enfin, de 2 ou 3 ans, est devenu non mixte. Et là, j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis dit que c'était évident que dans une société racialisée, et qui n'était pas racialisée par eux parce qu'ils décidaient de se réunir entre noirs, non, qui était racialisée par les blancs et depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il est considéré comme des êtres inférieurs et qui devait être tenu en marge de la société blanche et même tenu en marge de la société américaine tout court, de la société politique qui, dans ses principes, énonçait l'égalité de tous les êtres humains, mais en réalité considérait certaines parties de sa population, en particulier les Noirs, comme des gens inférieurs.
Bon. Sauf qu'aujourd'hui, Christine Delphi, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure, en France en tout cas, puisque l'égalité, du moins sur le papier, elle existe.
Mais elle existait aussi aux États-Unis à ce moment-là. Hein. Elle existait aussi. Sur le papier, tout va bien, vous savez. Sur le papier, tout va bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en France, on voit en effet des gens qui peut-être suivent l'exemple du mouvement féministe, qui lui-même s'est inspiré du mouvement américain des droits civiques, qui disent, mais ce n'est pas possible parce qu'en effet, la parole blanche, ou la parole masculine d'ailleurs, est toujours survalorisée. Et ça, c'est l'expérience de beaucoup de femmes qui voient que dans toutes leurs interactions, qu'elles soient professionnelles, amicales, domestiques, elles peuvent dire quelque chose qui n'est pas remarqué. Elles ont du mal à parler d'ailleurs. Et puis quand la même chose est dite par un homme, eh bien tout d'un coup, les autres personnes l'écoutent. Alors le problème, eh bien, il est, si vous voulez, dans l'oppression elle-même. Et mettre ensemble des gens dont les uns sont objectivement dans une situation de dominant et les autres qui sont dans une situation de dominé, justement par rapport à cette différence, qu'elle soit une différence de sexe ou une différence de couleur, parce que tout ça, c'est les différences de sexe et les différences de couleur sont les mêmes dans le sens que ce sont des différences d'apparence physique qui déterminent comment l'interaction va se jouer entre les gens qui ont la bonne couleur ou le bon sexe et les gens qui ont la mauvaise couleur ou le mauvais sexe.
Si je reprends les propos de Fania Noël et Siam Asbag, donc dans ce site Contre-Attaque hein, que je citais déjà tout à l'heure, ils ont donné une longue interview. Elles disent « La science a beau avoir prouvé qu'il n'y a pas de différence biologique fondamentale entre les différents groupes humains, les catégorisations raciales et les valeurs qui vont avec, positives ou négatives, qui leur sont attribuées, elles n'ont pas disparu. » Johannes Louis, vice-président du CRAN.
Merci de me donner la parole. Le sujet n'est pas si vieux que ça. N'oublions pas que le premier mouvement qui s'est réuni pour qu'on qualifierait de non mixte, c'était la Société des Nations. N'oublions pas que la France a un passé bien sûr esclavagiste. Le premier mouvement qui a été mis en œuvre pour pouvoir mettre un terme à l'esclavage, c'était la Société des Noirs. Et la Société des Noirs, faut pas l'oublier, ça a été fondée par l'abbé Grégoire. Il y avait exclusivement que des personnes blanches à l'intérieur. Parmi ces personnes, il y avait Condorcet, bien sûr. Il y avait bien sûr les grands résistants tels que Robespierre. Et à cette époque, effectivement, il y avait que des blancs qui pouvaient porter, bien sûr, la voix des Noirs à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les grands débats politiques, économiques, qui ont effectivement participé, contribué à la libération des Noirs. À partir de 1789, lorsqu'il y a eu la grande révolution française, les Noirs ont commencé à prendre la parole et à s'organiser afin de porter, bien sûr, les grandes valeurs de 1789.
Mais l'ont-ils suffisamment ou aujourd'hui, justement, faut-il passer par ces réunions
aujourd'hui, non mixtes ? Aujourd'hui, on arrive à le même constat. Quand je vois l'article de M. Laurent Bouvet dans Le Figaro qui dit l'islamisme, la gauche et le complexe colonial, moi j'aurais bien voulu qu'on me dise dans cet article, on donne pas la parole à une personne qui serait d'origine, qui serait même de musulmane, ou qui serait même, soi-disant, une personne d'origine étrangère pour lui donner la parole. Or là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que l'État organisé, les multinationales sont organisées, et les membres de la société civile issus, comme vous pourrez le dire, certaines personnes disent, de l'immigration, alors elles sont françaises à part entière, mais ces personnes n'ont pas la parole dans les médias de masse, n'ont pas la parole, bien sûr, dans les organes dits scientifiques. Aujourd'hui, elles s'organisent afin qu'elles puissent porter une nouvelle parole.
Laurent Bouvet.
Non, bon, c'était un entretien et non pas un article, mais peu importe, il faudrait poser la question au Figaro, pourquoi il n'interroge pas d'autres personnes ? Moi, il m'interroge, je réponds, j'ai fait pareil à l'Humanité, à Politis, ou au Monde, ou à Libération, à n'importe qui, enfin voilà, mais ça c'est autre chose. Sur le fond, il y a une différence essentielle, parce qu'on a parlé tout à l'heure du mouvement des droits civiques à plusieurs reprises, il y a une différence essentielle qui va se marquer d'ailleurs au tournant des années 60-70, une fois que les droits revendiqués par le mouvement des droits civiques vont être acquis, et notamment la garantie du droit de vote dans les États du Sud. Le mouvement des droits civiques, on peut parler aussi de la marche des beurs, au début des années 80, c'était des mouvements de revendication de l'égalité des droits, c'est-à-dire de rentrer dans le commun du pays qui est le sien, qui est celui de ceux qui sont là. Et c'était notamment le cas des Beurs au début des années 80. C'était pareil pour les Noirs dans les États du Sud dans les années 60. Il y a une différence avec la revendication, et je pense que là on est dans ce dont on parle aujourd'hui davantage dans ce deuxième ensemble, la revendication d'une identité propre, d'une caractéristique propre, qui est la caractéristique que l'on place face à la discrimination à raison de cette caractéristique. Parce que c'est là le débat essentiel, c'est-à-dire que si on est discriminé à raison de la couleur de sa peau, ou de son sexe, de son orientation sexuelle. On ne parle pas de l'homosexualité ici, mais ça, c'est aussi un cas important. Ça veut dire que cette discrimination, elle peut être combattue de deux manières. Elle peut être soit combattue par l'ensemble de la société, par des dispositifs. Moi, j'appartiens au conseil scientifique de la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, où on met en place depuis 4 ans un certain nombre d'éléments de lutte, comme jamais ça a été fait, contre toutes les discriminations.
Et
on
donc en rajoute ces réunions, pour vous, ne permettent pas de lutter contre le racisme.
Et il me semble que lutter contre la discrimination par une superposition d'assignation identitaire en disant non pas seulement « Black is beautiful » comme les mouvements noirs au début des années 70 l'ont fait, mais en disant « Entre nous, simplement, on va pouvoir s'exprimer bah, ». Très bien, pour l'expression, il n'y a pas de souci, évidemment. Ça c'est... Mais on va être plus efficace dans la lutte parce qu'on va pouvoir s'exprimer entre nous. Je pense que c'est une impasse politique.
Julien Talpin, sociologue, et puis ensuite Alma Mikanouté.
J'ai le sentiment que M. Bouvet, mais à l'image des débats qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, font une mésinterprétation des objectifs politiques de ces rassemblements, qui ne sont en aucun cas une revendication identitaire ou une affirmation de quoi que ce soit, mais une revendication en tout cas d'égalité. Et c'est ça, véritablement, l'objectif de ces mouvements, c'est la demande, effectivement, pas d'une simple égalité des droits, mais d'une égalité réelle face aux discriminations systémiques qui traversent la société française, que ce soit dans l'accès au travail, au logement, un certain nombre de services, etc. Et ces mouvements, d'ailleurs, revendiquent et font des propositions de politiques publiques très concrètes, que ce soit, par exemple, la proposition de créer un récépissé d'identité lors des contrôles policiers. Et il faut quand même rappeler, et moi je travaille pas mal sur ces questions-là, que les politiques publiques en matière de discrimination en France sont quasiment inexistantes. Et que quand on compare aux autres pays européens, la France est le parent pauvre, en fait. Il y a un effort considérable à faire de ce point de vue-là. Et le véritable problème, et ce qui explique aussi l'émergence de ces nouveaux mouvements antiracistes, c'est que la République fait constamment la preuve du non-respect de ses idéaux. Et le jour où elle sera véritablement exemplaire en termes d'égalité, en termes de traitement de tous les citoyens de la même façon, peut-être que ces mouvements n'auront plus de raison d'être.
Alma Mikanouté.
Je viens d'apprendre, et ça m'a fait tilt quand j'ai entendu que vous étiez membre de la DILCRA, qui est pour moi un bel exemple de ce pourquoi des citoyens français décident de s'organiser ou de se rassembler en fonction des catégories que la société nous impose.
Pourquoi ?
Moi, le fait que la DILCRA, soi-disant, lutte contre toutes les formes de racisme et extrait de ces racismes l'antisémitisme, pour moi, ça pose problème.
Non, l'antisémitisme n'est pas exclu. Il est dans l'intitulé de la DILCRA même. Pourquoi vous dites ça ?
Pourquoi extraire du mot racisme au pluriel.
Mais parce que oui.
Pour moi, ça m'a toujours posé.
Parce que la discrimination, enfin la discrimination, les actes antisémites ou les paroles, enfin paroles et actes, peu importe, antisémites, renvoient à quelque chose qui n'est pas lié à une couleur de la peau, au racisme tel qu'on peut l'envisager.
C'est une forme de
pareil
racisme,
dans la discrimination. La discrimination sexuelle face à l'orientation sexuelle n'est pas non plus un racisme anti-homosexuel. On ne peut pas tout mettre sous le racisme. Raciste, ça renvoie à la race.
Oui, mais
Alma Mikanouté, pour revenir à ce que disait Julien Talpin,
je pense pas que les Juifs soient une race.
Cette forme de discrimination, sur cette forme de discrimination à laquelle vous pouvez être vous-même confronté, vous racontez dans beaucoup d'articles de presse les contrôles policiers. Oui. Vous habitez à Fresnes, que vous avez déjà vous subi et que surtout dans lesquels vous intervenez maintenant.
Quand on est sujet à des contrôles, abusifs, puisque c'est appelé comme ça. On a deux choix. C'est soit on prend sur soi et on fait en sorte de revenir plus fort, c'est-à-dire en ayant connaissance de ses droits et de mettre en application certains textes de loi pour nous citoyens, ou soit on se laisse emporter par ses émotions et on se retrouve systématiquement dans l'engrenage outrage à agent. Donc, moi j'ai fait le choix, et en tant qu'éducateur, de me munir de textes de loi et de faire en sorte de me protéger et d'attaquer par tous les moyens nécessaires. Quand on a affaire à ce genre d'organisation qui est considérée comme étant, une motivation à créer un peu plus de communautarisme, pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les institutions ne montrent pas l'exemple. Nous avons à la tête de notre gouvernement des cols blancs pas du tout exemplaires. Donc, quand ils seront en position et qu'ils auront cette légitimité à nous montrer l'exemple en termes d'égalité, de fraternité et de justice, et qu'ils feront en sorte de faire l'effort qu'on n'ait plus ce sentiment d'injustice et d'inégalité, là, peut-être on pourra commencer à discuter avec la masse. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, il faut être compréhensible. C'est-à-dire que je reviens sur ce propos, tous les moyens nécessaires. Et tous les moyens nécessaires,
ben, ça passe. Donc un parmi d'autres.
Un parmi d'autres. Mais je reviens encore sur le fait que on ne peut pas pointer du doigt ou se dédouaner d'une négligence vis-à-vis de la lutte contre les racismes. Donc qu'un groupe homosexuel ou entre guillemets racisé s'organise, essaie de faire l'analyse ou l'autocritique d'une situation dont elle est sujet au quotidien, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Parce que quand les médias et les politiques ne prennent pas position, quand des identitaires tiennent des propos xénophobes et racistes, là, je vois quelque chose de dangereux. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas reproduire justement ce qu'il y a de néfaste quand des groupes s'organisent. C'est-à-dire que si des groupes, entre guillemets, dits racisés, s'organisent pour réfléchir ensemble et en sortir des analyses. Moi, voilà, je fais entièrement confiance au sociologue Saïd Bouamama, à Omar Slaouti, qui justement sont intervenants dans ce camp-là. J'attends de voir ce qui va en sortir pour pouvoir émettre des critiques. Et
Christine Delphi, sociologue, au téléphone avec nous.
Oui, je trouve que bon, la distinction en fait et l'opposition posée entre deux formes de lutte, l'une qui serait de type communautariste et qui ne déboucherait sur rien, et l'autre qui serait consensuelle, etc., c'est complètement artificiel, parce que dans la réalité, ça n'est pas ça que nous voyons. Et c'est ce qui a conduit à la formation de groupes non mixtes, que ce soit des groupes de femmes ou des groupes de racisés. Parce qu'enfin, dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire de groupes féministes ou antiracistes mixtes, eh bien, ce qu'il ne prend pas en compte et refuse de prendre en compte, c'est le fait que la parole masculine et la parole blanche ont des poids qui sont beaucoup plus importants que la parole des dominés. Et ça, non, c'est pas seulement quand ces gens peuvent s'exprimer, et comme l'a dit l'intervenant précédent, ils n'ont pas accès aux médias. C'est quand même fabuleux de voir le nombre d'articles écrits, par exemple, sur l'islam, ou sur l'islamophobie, ou sur le racisme, le nombre d'articles qui sont écrits par des blancs. Et c'était la même chose, et ça continue d'être comme un peu la même chose à propos des femmes. Donc, c'est la même chose qui se passe dans ces groupes, c'est-à-dire que c'est la parole des dominants qui en vient à définir ce qui est raciste ou ce qui n'est pas, ce qui est sexiste ou ce qui n'est pas, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Alors ça se fait dans les groupes eux-mêmes, d'abord parce que ces groupes sont des groupes de dominés, et les femmes ont une déférence vis-à-vis de la parole masculine. Après tout, elles ont été élevées depuis l'âge de 6 mois dans cette idée qu'il faut toujours avoir une déférence vis-à-vis des hommes.
Mais on peut facilement mettre sur le même plan, Christine Delphi, la parole des féministes des années 70 que vous évoquez là, et cette idée de réunion non mixte dont on parle.
Et pourquoi on ne pourrait pas les mettre sur le même plan?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Elles sont absolument sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens disent « j'en ai marre que ce soit des hommes » ou « j'en ai marre que ce soit des blancs » qui définissent ce que c'est que le racisme. Après tout, le racisme, qui est-ce qui l'éprouve? C'est moi. Ce n'est pas eux qui sont insultés dans la rue, regardés avec moquerie ou regardés avec mépris. Ce ne sont pas eux qui sont discriminés, comme ça a été rappelé évidemment à tous les niveaux. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons. Et le racisme, c'est ce que les racisés éprouvent. C'est ce qu'ils subissent jour après jour. C'est ça, le racisme. Ça n'est pas l'idée abstraite que s'en font des gens qui sont en fait privilégiés par leur couleur et puis par les postes que ça leur a permis d'atteindre.
Johannes Louis, vous êtes vice-président du CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France. Est-ce que finalement, il n'y a que les victimes du racisme qui peuvent comprendre et expliquer le racisme ?
Oui, sur certains sujets, je pense que ce sont les mieux placés. Je veux prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est par rapport, vous savez qu'actuellement dans les collèges, les élèves sont en obligation de faire un stage. Et à partir de moment où il y a eu un problème, c'est à partir de 4e et 3e, les instituteurs, les professeurs ont constaté que les enfants issus de l'immigration n'avaient pas accès au stage, ils avaient beaucoup moins, plus de difficultés. Ça, c'est une première réalité. Dans un second temps, il y a eu aussi un travail fait autour de cette nouvelle génération qui est beaucoup mieux formée, beaucoup plus spécialisée. Ces derniers, bien sûr, veulent accéder à des postes beaucoup plus intéressants dans le domaine des médias, dans le domaine des postes d'encadrement. Et on constate que ces derniers sont victimes des discriminations. À partir de là, la question de savoir, est-ce qu'ils doivent se plaindre, comme l'a si bien dit notre interlocuteur précédemment, ou ils doivent s'organiser. Aujourd'hui, on constate dans le champ social, il y a des situations généralistes, est-ce que la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, et à partir de 2005, faut pas l'oublier, c'est après la mort de Ziad et de Bounia que ces nouvelles associations dites spécialistes sont organisées dans le champ social afin de porter une parole qui réponde à leurs difficultés, à leurs problèmes. Donc effectivement, sur certains sujets, je pense qu'il est tout à fait compréhensible et normal que les associations spécialistes répondent à certains besoins et répondent à ces questions.
Sur franceinter.fr, Fatima nous écrit « Des réunions non mixtes, deux points d'interrogation. Pourquoi pas des réunions pour les personnes métissées, comme pour mes enfants ? Entendre que des réunions non mixtes existent me fait peur. Cela veut dire que l'on refuse la parole de l'autre. » Antoine nous dit une réflexion sur le débat du jour. Peut-être que si les journalistes arrêtaient de citer les gens de cette façon, monsieur X d'origine Y ou de religion Z, on entendrait moins de réflexions du genre. C'est toujours les mêmes. Et enfin, Gabriel, qui se pose cette question, que dirait-on d'une organisation composée uniquement de blancs catholiques et interdite aux autres ? Ne serait-elle pas considérée comme immédiatement raciste ?
Ça existe.
Ça existe.
Déjà, oui.
Et j'insiste aussi pour dire que les réunions dont on parle là ne sont pas nécessairement interdites aux blancs, il y a une nuance, mais interdites, enfin interdites en tout cas, là où ce sont les personnes qui sont victimes de racisme qui peuvent y prendre la parole. Midi 42 sur France Inter. Les rassemblements non mixtes, donc, sont-ils une manière efficace de lutter contre le racisme, repli communautaire ou naissance d'un mouvement en France? Voilà le thème qu'on aborde dans ce débat de midi. Et on attend donc toujours vos réactions sur franceinter.fr ou sur Twitter, hashtag le débat de midi. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec aussi Angus et Julia Stones.
Gonna take
Les Australiens, frères et sœurs Angus et Julia Stone et Bridget Plain pour le titre. Toute la programmation musicale du débat de midi sur franceinter.fr.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
La lutte contre le racisme peut-elle passer par la non-mixité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec cinq invités. Johannes Louis, qui est vice-président du CRAN, Laurent Bouvet, politologue, Julien Talpin, chercheur en sciences politiques, Almami Kanouté, qui est militant politique, et Christine Delphi, qui est sociologue au téléphone avec nous. Je voulais vous lire, puisque vous évoquiez tout à l'heure, je ne sais plus l'un d'entre vous, la LICRA, ce qu'a dit Alain Jakubowicz, qui est le président de la LICRA au moment de ses réunions. Union mixte, les mots sont assez forts. Sous couvert d'antiracisme, notre pays risque de voir émerger des Ku Klux Klan inversés où le seul critère qui vaille sera la couleur de la peau. Julien Talpin.
Il me semble qu'il y a quand même un point important à rappeler par rapport au débat qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que cette non-mixité, elle est temporaire. Et ce sont des organisations qui sont fondamentalement mixtes. Et là, ils se réunissent pendant 3 jours entre eux pour pouvoir libérer la parole, construire une parole commune, une culture commune. Et donc voilà, c'est temporaire. Et donc c'est des organisations, et moi j'ai assisté à un certain nombre de réunions de ce courant qui s'appelle l'antiracisme politique, et on leur reproche d'ailleurs parfois de segmenter l'antiracisme, mais ils se rassemblent en fait, les organisations qui promeuvent la condition des Roms, celles qui luttent contre l'islamophobie, celles qui luttent contre la négrophobie, etc., mènent des combats communs. Il y a eu l'année dernière la marche de la dignité, par exemple, qui les rassemblait toutes. Et donc, il y a véritablement une volonté de lutter contre le racisme, entendu d'un point de vue politique, qui est qu'une réalité systémique et institutionnelle en France. Deuxième point, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qui est une stratégie de ce qui est un projet et un objectif politique. La non-mixité temporaire est une stratégie à court terme pour permettre aux premiers concernés de prendre la parole, de se former, d'échanger entre eux de façon plus libre peut-être que s'il y avait un groupe mixte. Néanmoins, le projet politique, c'est véritablement de construire une société égalitaire. Et moi, je crois qu'à l'inverse de ce qui est parfois dit, plutôt que de conduire au repli sur soi et au communautarisme, c'est la meilleure arme, au fond, de lutte contre le repli sur soi. Puisque moi je travaille beaucoup sur les discriminations et la façon dont les gens y réagissent. Une façon d'y réagir, c'est peut-être de se replier sur soi quand on est victime de racisme ou de discrimination. Une autre façon, c'est de s'organiser collectivement et de prendre la parole politiquement. Et je crois que c'est véritablement l'inverse du repli sur soi, ce type de mouvement.
Laurent Bouvet, est-ce que voilà, justement, au contraire, on peut pas se dire que ça peut être aussi, après tout, toutes les méthodes peuvent être utilisées et sont bonnes si on parle de la lutte contre le racisme. Pourquoi pas celle-là ?
Oui, non, mais les méthodes de lutter contre le racisme sont très nombreuses et légitimes en soi. Et ces mouvements, que je sache, ne sont pas interdits, que ce soit le Parti des Indigènes de la République, qui ne développe pas et qui n'a pas un discours extrêmement ouvert et, qu'on peut qualifier aisément de raciste, malgré tout, dans un certain nombre des propos. J'ai lu en particulier le dernier livre de Auria Boutedja, qui est très clair de ce point de vue. Ces mouvements ne sont pas interdits. Il y a des réunions, ils ne sont pas empêchés de se réunir. À l'université Paris 8, où il y a eu un certain nombre de ces réunions, il y a... des débats de ce type. Donc je pense que, heureusement, et je défendrai la possibilité qu'ils s'organisent, et je serai, on rejoint d'autres débats, contre l'interdiction juridique, parce que pour moi ce n'est pas un problème juridique, on ne doit pas interdire. Simplement, politiquement, je dis les difficultés que me posent du point de vue principiel, du point de vue de l'universalité du genre et de la race humaine, du point de vue de l'efficacité politique et sociale.
Pourquoi ce ne serait pas efficace ?
Parce que la difficulté, on l'a vu notamment dans l'exemple américain, qui est un exemple très intéressant de ce point de vue-là, la difficulté du basculement du mouvement des droits civiques vers les mouvements identitaires noirs, en partie féministes, homosexuels, qui se sont organisés à partir de cette base, qui se sont radicalisés, une sorte de tournant identitaire au début des années 70, va conduire d'abord dans des conditions politiques très dures au début des années 80 avec la droite Reagan, les chrétiens fondamentalistes, etc., blancs, qui reviennent contre ce qui s'est passé dans les années 60 et 70, hein, pour revenir sur toutes ces conquêtes des minorités, etc., eh ben, il va y avoir un échec politique considérable. C'est ce qu'on va appeler les Rainbow Coalitions, hein, des sortes de tentatives de mettre en place l'intersectionnalité, comme on dit en sciences sociales, hein, ce concept développé par une féministe qui s'appelait Crenshaw, Kimberly Crenshaw, et qui est l'idée de lier les luttes des femmes et des noirs, essentiellement aux États-Unis, avec une dimension sociale pour recoller le mouvement ouvrier, le mouvement social qui avait été un peu oublié, mais qui va échouer parce que la juxtaposition d'un certain nombre d'organisations segmentées en fonction de l'origine de la discrimination de ses membres, homosexuels, femmes, noirs, latinos, etc., etc., et on pourrait partir pareil en France, les beurs, etc., etc., c'est l'échec politique parce que à chaque fois, on aboutit à une espèce de puzzle ultra-minoritaire, de minorité, qui ne constitue pas un projet général. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de la gauche d'avoir soutenu pendant longtemps, le Parti démocrate aux États-Unis, les partis de gauche en France, du socialisme au Parti communiste, y compris les Verts, etc., d'avoir soutenu ce genre de possibilité pour renouveler le programme de la gauche en abandonnant un peu la question sociale, pour dire les choses concrètement.
Johannes Louis, est-ce que ça permet pas aussi de sortir du débat moral? Souvent le racisme était avant tout moral, pour l'inscrire dans un débat plus politique.
Mais si on l'inscrit dans un débat politique dans l'égalité réelle, on va prendre un seul exemple. Actuellement, il y a le projet de loi qui va être adopté sur l'action de groupe en matière de discrimination. Je peux vous garantir, lorsque, il l'a si bien tout à l'heure dit M. Talpin, lorsqu'on a été invité au ministère des Affaires sociales, il y a eu les associations des paralysés de France, il y a eu les associations féministes, lesbiennes, et donc on a bien vu qu'il y a eu une convergence, bien sûr, de toutes les personnes discriminées spécialisées dans leur champ d'action, afin de porter la parole auprès du Parlement et bien sûr du gouvernement, qui a abouti aujourd'hui à ce projet de loi. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'on est spécialisé que cela interdit bien sûr à ces diverses associations qui défendent bien sûr l'égalité réelle de pouvoir se réunir pour défendre une cause commune. Et malheureusement, ça aurait dû être le travail du défenseur des droits, de Adil Kra, de porter des projets de loi innovants afin que l'égalité réelle soit une réalité. Or, en raison de la défaillance de ces structures dites publiques, ben ces structures, ces associations se sont elles-mêmes organisées pour porter des nouveaux projets de loi.
Vous voulez retourner à ce qui se faisait sous Sarkozy? C'est ça? Vous voulez retourner il y a 4 ans sous Sarkozy?
Comment
vous savez ce qui a été fait depuis 2012? Je ne défends pas. Vous pouvez lire d'autres. Vous avez lu un entretien, lisez-en d'autres sur Hollande, etc. Vous verrez que je ne défends pas vraiment le gouvernement et les présidents de la République. Mais simplement, il s'est fait depuis 4 ans sous ce gouvernement, notamment dans le dispositif de la DILCRA, des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'ici, y compris par la gauche. Non, ce n'est pas une blague.
Monsieur Bouvet, j'aimerais savoir.
Régresse sur ces questions.
Par rapport à Sarkozy, bah, bravo.
Qu'est-ce qui a été fait sous Hollande? Quelle est l'efficacité réelle de la DILCRA? Et une question peut-être qui ne va pas vous plaire, parce que là, en face de moi, j'ai l'impression d'avoir en miniature ce qu'on subit encore aujourd'hui des dominants. Voilà. Parce que je suppose que la représentativité au sein de la DILCRA doit être exemplaire. Hein, on doit y trouver des Français.
C'est un conseil représentatif, la DILCRA.
Excusez-moi, pour pouvoir traiter de certains sujets qui traitent du racisme, je pense qu'au sein de la DILCRA, vous avez des Français d'origine asiatique, des Français d'origine africaine, des Français de confession musulmane, de confession juive, de chrétienne. Tout le monde est représenté?
Non,
parce que je trouve un petit peu facile.
Laissez Laurent Bouvet répondre.
Non, juste terminer. Le fait de se cacher derrière le bilan politique de X ou Y, je trouve ça un petit peu facile.
C'est pas se cacher, c'est simplement...
Pour moi, je mets au même plan, que ce soit Sarkozy, Hollande, d'accord, ou d'autres, d'accord, ou la future.
Voilà, comme ça c'est clair.
Ils ne régleront rien du tout à nos problèmes.
Voilà.
Nous subissons une certaine violence sociétale. Et si nous, en tant que citoyens, on ne se met pas à s'organiser, à discuter, à échanger, ce que j'ai pu retrouver au sein de Nuit Debout, ce que j'ai pu rencontrer comme groupe, comme individu, j'en suis content.
Christine Delphi, sociologue.
Des choses se préparent.
Parce que vous êtes
Christine Delphi.
J'ai trouvé assez extraordinaire la description qu'a faite Laurent Bouvet de ce qui s'est passé au sein des mouvements américains dans les années 60 et 70 et qui aurait conduit quasiment à l'éclatement et à un backlash blanc. En fait, ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors, Laurent Bouvet construit une jolie histoire qui légitime, en fait, que les Blancs reprennent la main. Et ils reprennent la main partout. Dès qu'on leur laisse la place...
C'est pas moi qui ai construit Ronald Reagan, enfin, écoutez. Et Ronald Reagan, c'est pas moi qui l'ai élu en 80. Il faut arrêter les bêtises. Enfin, écoutez...
Attendez, je parle pas de Reagan.
Ah bon, d'accord. Moi, je parlais de Reagan tout à l'heure. Merci.
Moi, j'ai parlé de Reagan, j'ai jamais parlé
non, moi,
de Reagan.
Non, moi, j'ai parlé de Reagan tout à l'heure.
Donc vous, tout ce que vous dites.
Bah oui, mais vous réagissez à ce que je dis en faisant dire des choses que je n'ai pas dites, puisque j'ai parlé de Reagan
Christine
et du backlash
Delphi,
blanc des
sur,
années 80.
Sur notre débat autour de ces rassemblements non mixtes, justement, est-ce que vous pensez que c'est une façon de faire avancer la cause?
Mais je pense que c'est pas une façon de faire avancer la cause, c'est la seule façon de faire avancer la cause. Parce que d'abord, il y a une chose que j'essaye de vous dire, mais apparemment, et que d'autres essayent de vous dire dans ce débat, c'est qu'il y a des choses, en effet, qui sont invisibles devant des dominants. Vous pensez que les femmes vont aller parler de leur sexualité devant des hommes? Vous pensez vraiment ça? Or, il y a des grandes avancées qui ont été faites. Parce que parce qu'on était dans des groupes non mixtes, des grandes avancées de réflexion, de théorisation, et ça c'était impossible dans des groupes mixtes. D'ailleurs, ça a été expérimenté. Je me souviens très bien le premier groupe mixte qui a été recréé après, qui s'appelait justement Mixité, avec mix et puis ensuite cité. Eh bien, les femmes me disaient, oui, c'est très bien, on peut parler de quasiment tout, mais c'est évident qu'on ne peut pas parler de sexualité. Alors, la sexualité, c'est quand même une chose importante dans l'oppression des femmes et dans notre société en général. Et puis, la question, c'est finalement, qui va définir l'oppression des femmes? Qui va définir l'oppression des Noirs? Qui va définir l'oppression des Arabes? Qui va définir l'oppression des gens qui sont considérés comme des minorités même dangereuses, et bien il ne faut pas que ça soit les dominants qui la définissent. Or, ils n'arrêtent pas de la définir.
Je vous coupe, on a compris le sens de vos propos, mais nous arrivons malheureusement au terme de l'émission qui mériterait peut-être une deuxième heure, voire une troisième heure de débat. Merci à tous d'avoir été en direct en ce lundi 22 août. On se retrouve demain pour se demander si la France est capable d'être écolo. On attend déjà vos réactions sur franceinter.fr, et pardon pour cette fin un peu brutale. Merci.